Euradio Nantes et le Centre culturel franco-allemand présentent Hallo Nantes.
Euradio Nantes und das deutsch-französische Kulturzentrum präsentieren Hallo Nantes.
Vous êtes donc sur Euradio Nantes pour l'émission mensuelle du Centre culturel franco-allemand Hallo Nantes. Bienvenue, mon nom est Martin Krechting, je suis directeur du Centre culturel. Aujourd'hui, avec moi sur le plateau, il y a deux de mes collègues et deux invités. Donc à ma droite, deux étudiantes de l'Université de Nantes en parcours bilingue anglais-allemand qui viennent tous les deux de rentrer d'Hambourg et qui vont nous parler d'un projet d'échange avec les étudiants de Hambourg. Bonjour Anne-Lise Latte.
Bonjour.
Et bonjour Mathilde Petiz.
Bonjour.
Et à votre gauche, mes deux collègues qui vous connaissez déjà en fait des dernières émissions, donc notre volontaire culturelle franco-allemande Nathalie Osnoff. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Et ma collègue Zina Betna, qui était là depuis le début de toutes les émissions Hallo Nantes, depuis le mois de septembre, du coup. Bonjour Zina.
Bonjour.
Alors, dans cette première partie, on s'est dit qu'on va tout de suite revenir, Anne-Lise et Mathilde, avec vous, sur un projet d'échange que vous avez mené avec les étudiants de Hambourg. Peut-être pour contextualiser un peu cet échange, on va rappeler que la ville de Nantes a différents domaines d'échange avec la ville d'Hambourg. Il y a plusieurs choses qui rapprochent les deux villes, donc c'est deux villes, alors pas côtières, mais proches de l'eau, proches de la mer. Toutes les deux villes étaient capitales vertes de l'Europe à un certain moment, donc il y a quelques années déjà. Et depuis cette époque existent donc de nombreux échanges au niveau de la ville, mais aussi au niveau de la société civile. Et il y a quelques années, l'Université de Nantes, donc le département d'études germanistiques, a lancé aussi un échange Erasmus entre les deux universités. Et cette année, vous avez donc participé à cet échange entre les deux universités. Et donc, ça a commencé il y a quelques mois déjà. Et puis là, vous venez juste de rentrer d'Hambourg. Est-ce que, je ne sais pas qui de vous deux, Anise, Mathilde, pourrait nous parler peut-être déjà de la première partie de cet échange?
Moi, je veux bien parler. Du coup, en mois de janvier, on a accueilli des Allemandes. On en a accueilli 12, je crois. Et ça s'est bien passé. On a visité Nantes et voilà.
Alors, un échange déjà, pour quoi faire? Est-ce que ça se fait dans le cadre d'un cours précis ou est-ce que c'est... Quel est le but d'un tel échange? Est-ce que vous allez sur place pour faire la connaissance de la ville? Est-ce que c'est dans un but, en fait, de cours commun, d'échange vraiment donc au niveau universitaire? Ou quel est le but d'un tel échange?
Alors, à la base, c'était un échange sur le thème des comics et des BD. Donc, les différences entre les BD en France et en Allemagne. Et on a eu un cours, on en a pas mal parlé, on a écrit des articles sur les BD, etc. Et les Allemandes, en parallèle, avaient vraiment un cours dédié à ça qui était vraiment sur la BD en Allemagne. Et du coup, c'est de là qu'est parti l'échange et voilà.
Alors Mathilde, si on parlait en fait un peu plus en détail, quelles sont les différences entre la BD en fait en France et le comic en Allemagne? Est-ce qu'il y a des différences? Qu'est-ce qui différencie en fait cet art dans les deux pays?
Y a une différence qui est flagrante, c'est que les BD sont moins répandues en fait en Allemagne qu'en France. En France, la BD, c'est une forme de littérature. Mais depuis super longtemps, on a Astérix, Obélix, on a... Enfin, c'est belge. Il y a de la littérature belge et tout ça qui est considérée comme française. Et c'est très important. En France, la BD, c'est vraiment de la littérature. En Allemagne, moins. Ou depuis moins longtemps. Le pic, le boom des comics, c'est maintenant. On va dire ça comme ça.
Ça veut dire que vous, avant votre échange, vous connaissiez des auteurs en fait de BD allemands?
Pas du tout, non. Moi, je connaissais pas.
C'est peut-être quelque chose qui est déjà assez voilà, qui confirme ce que vous venez de dire. Oui. Alors maintenant, comment ça se fait cet échange-là? Vous étiez hébergé dans des hôtels en fait sur place quand vous étiez à Hambourg, et puis les Français, enfin les Allemands, quand ils sont venus, étaient hébergés aussi dans des hôtels sur place, ou comment ça se fait en fait votre échange?
Non, c'était un échange un peu comme au collège, au lycée, comme on ferait. À cet âge-là, on avait chacun des correspondants et les correspondants sont venus dormir chez nous et on allait dormir chez nos correspondants quand on est allé à Hambourg. Après, en fonction de la place de chacun, on a accueilli plus ou moins de personnes parce que ça peut être vite compliqué quand on est dans une chambre de 9 mètres carrés, mais voilà, on a fait en sorte de pouvoir accueillir chacun quelqu'un.
Complètement, ça se comprend, oui, bien entendu. Et maintenant que vous étiez dans les deux villes, à votre avis, est-ce que déjà la ville de Hambourg, qu'est-ce que vous avez vu de cette ville qui, c'est vrai que c'est la deuxième ville d'Allemagne, donc une grande ville, c'est pas la même taille de Nantes, tandis que Nantes, quand on va dans la ville, on voit le poids des étudiants dans la ville, puisqu'on a énormément. Hambourg, j'imagine qu'on le voit beaucoup moins, même s'il y a beaucoup d'étudiants, mais la ville étant très grande, ça se remarque peut-être moins. Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce que vous avez vu à Hambourg?
Hambourg, c'est une ville justement qui est très très grande, qui est très très large. C'est une ville qui est moderne et en même temps pas moderne. Je sais pas, c'est moi, c'est surtout ce mélange-là qui m'a un peu fait bizarre. La première chose que j'ai vue, c'était des vieux bâtiments, enfin ce qui semblait être vieux, avec des bars, des trucs assez industriels en fait. Et c'était ça m'a choqué, quoi. Ouais.
Et Mathilde, vous, en fait, votre impression d'Hambourg?
Moi, j'ai trouvé la ville immense. C'est vrai que par rapport à Nantes, qui est quand même assez petite, c'est vraiment immense. Et ouais, c'est vrai qu'il y a un côté très industriel avec le port, etc. Et à côté de ça, il y a des quartiers avec des bâtiments beaucoup plus anciens. Et c'est vraiment un contraste assez intéressant. Et même dans la ville même, il y a chaque quartier qui représente une humeur différente. Il y a le quartier alternatif, le quartier du port et le quartier plus chic, le quartier d'université. Enfin, vraiment beaucoup d'univers différents dans la même ville.
Et pour vous qui êtes maintenant étudiante ici à Nantes, qu'est-ce que vous avez mis en avant pour les Allemands qui sont venus? C'est une question qu'on pose souvent pour les jeunes ambassadeurs de la ville jumelle de Nantes à Saarbrück à Nantes, qui viennent toujours une année de la ville de Saarbrück ici à Nantes pour faire des projets d'échange avec les jeunes. En les recrutant, on leur pose toujours la question, qu'est-ce que c'est pour vous en fait? Qu'est-ce que c'est en fait l'intérêt de la ville de Nantes pour vous? Qu'est-ce qu'on montre à des jeunes Allemands qui viennent? Quelle est la particularité de Nantes?
Déjà, on montre l'éléphant, évidemment.
Bien entendu.
Ça, c'est ce qu'on montre à tout le monde quand ils viennent à Nantes. Mais on a montré aussi le château. Qu'est-ce qu'on a montré?
On a montré aussi que Nantes, c'était une ville jeune, en fait. Parce qu'il y a plein de choses de jeunes, je ne sais pas comment dire. Et je pense que ça, c'était important aussi de le montrer. Ce n'est pas que des vieux bâtiments ou autre chose, quoi.
Et si vous faites un tel voyage, comment vous avez pu financer le voyage? Est-ce qu'il y avait une prise en charge de partenaires qui vous ont permis de faire ce voyage-là? Ou est-ce que chacun des participants a dû participer soi-même au financement du voyage?
Alors nous, on avait des subventions de l'OFAGE. Et donc grâce à ça, on a pu partir sans rien payer. Ou alors une très petite somme en fonction que chacun a pu dépenser aussi sur place.
Ouais. Donc c'est peut-être un rappel très utile de dire qu'en fait, au niveau des échanges, en fait, franco-allemand, il y a l'OFAGE, donc l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui peut le prendre en charge, ou aussi parfois l'Office franco-allemand d'échange universitaire, le DAD.
Merci l'OFAGE.
C'est très bien que en fait, vous avez pu profiter de ça. Est-ce que si maintenant, comme vous étiez dans les deux villes, alors là, c'était une mobilité de courte durée, je ne sais pas, vous y êtes maintenant L2, est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous amène peut-être à penser une mobilité de plus longue durée, donc comme une sorte d'amuse-gueule avant d'entamer une mobilité en fait plus longue, Anise?
Totalement. Moi, je n'étais pas vraiment trop pour partir l'année prochaine en Erasmus, parce que l'angoisse, le fait d'être partie, d'être loin, et la langue aussi. Mais être une semaine à Hambourg, ça m'a vraiment, vraiment donné l'envie, et je sais que je ferai tout pour repartir après.
Alors, et ça sera dans quelle ville?
Je ne sais pas encore. Peut-être Hambourg ou peut-être plutôt dans un pays anglais, je ne sais pas encore.
Oui, puisqu'on rappelle que vous êtes en parcours bilingue, en fait, anglais-allemand. Et Mathilde, pour vous, est-ce que c'est un peu la même chose? C'est-à-dire qu'une telle mobilité permet peut-être de voir plus clair par rapport à un séjour de mobilité de plus longue durée?
Alors moi, j'ai déjà prévu de partir en Erasmus à Graz, en Autriche, pour l'année prochaine. Mais ouais, du coup, j'ai vraiment aimé Hambourg. Enfin, je ne connaissais pas du tout la ville et c'est vrai qu'elle ne m'attirait pas plus que ça. Et ça m'a donné envie d'y retourner après, par moi-même, pour découvrir encore un peu plus, etc.
Est-ce que, je ne sais pas si vous avez pu, en fait, pendant votre scolarité aussi, participer à des échanges, comment ça se différencie, un échange, là, au niveau scolaire? Qu'est-ce qui, pour vous, est la différence de faire ça? Vous avez dit que là, l'hébergement en famille ou chez les étudiants, ça ressemble un peu à ce que vous avez pu vivre, en fait, lors d'un échange scolaire. Quelles sont les différences entre un échange au niveau scolaire et puis l'échange que vous venez de vivre avec les étudiants?
Déjà, on a pas le même âge, donc c'est pas du tout le même niveau de liberté. C'est vrai que là, on était relativement libre de découvrir aussi la ville par nous-mêmes. Et puis, forcément, nos correspondants qui étaient plus âgés, on a eu des échanges différents. Parce que c'est vrai que quand on a 13-14 ans, qu'on part dans un autre pays et qu'on parle presque pas la langue, ça va être compliqué aussi de communiquer avec les gens sur place. Et donc, c'est vrai que c'était beaucoup plus intéressant sur ce point-là.
Et puis, on n'a pas la même envie d'apprendre. Je sais que quand j'étais au collège, c'était plus voyager qui m'intéressait. Aller dans un autre pays. Là, c'est vraiment comprendre la culture allemande et comprendre ce qui se passe là-bas, en fait.
Bon, ça veut dire que merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et de témoigner de ces impressions de voyage. Donc, Anise, on suivra avec beaucoup d'attention le choix de votre ville, en fait, de séjour à l'étranger, en fait, pour le semestre prochain, donc peut-être en Allemagne. Et puis, Mathilde, on vous recevra avec beaucoup de plaisir la prochaine fois avec un petit accent autrichien après votre tour de Graz. Donc, merci beaucoup et on va passer la parole à ma collègue Zina Bittner pour l'annonce de la musique après la fin de cette première partie.
Genau, wie immer auf Deutsch kündige ich an. Also, da wir ja heute eine ein bisschen Europa gewidmete Sendung haben, sind unsere Lieder, die wir jetzt spielen wollen, alle vom Eurovision Song Contest, der am 18. Mai in Tel Aviv stattfinden wird. Und Deutschland hat nur zweimal gewonnen, bisher vielleicht jetzt ein drittes Mal bald. Und wir hören den ersten Gewinner, Nicole, ein bisschen Frieden in viersprachiger Version.
So wie ein Feuer im eisigen Wind, wie eine Puppe, die keiner mehr mag, fühl ich mich an manchen Tag. Dann seh ich die Wolken, die über uns sind, und höre die Schreie der Vögel im Wind. Ich singe aus Angst vor dem Dunkel mein Lied und hoffe, dass nichts geschieht. A little loving, a little giving, to build a dream for the world we live in. A little patience and understanding for our tomorrow. A little peace, a little sunshine, a sea of gladness to wash away all the tears of sadness. A little hoping, a little praying. Puis-je faire avec une chanson? Mais pourquoi me taire? Y'a pas de raison. Pour faire la guerre, c'est mieux qu'un canon. Y'a qu'à trouver l'unisson. Un beetje vrede, un beetje liefde voor onze wereld waarop we wonen. Een beetje vrede, een beetje vreugde erover. Moins de frontières, moins de misère, moins d'égoïsme, de monisme, moins de paroles et de symboles, plus de tendresse, moins de promesses. Soy solo un poeta que quiere lograr, con mis canciones más cerca llegar, paloma de paso. Y así poder sembrar paz. Paz y esperanza, ruego y anhelo al gran Señor que nos conceda que en este mundo en que vivimos para el mañana un poco de paz. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass sich die Hoffnung nie mehr verliert. Singt mit mir ein kleines Lied, dass die Welt im Frieden lebt.
Hallo Nantes.
Auf Euradio Nantes.
Vous êtes de retour sur Euradio Nantes pour l'émission Hallo Nantes du Centre culturel franco-allemand. Donc aujourd'hui, je suis sur le plateau avec deux étudiants de l'Université de Nantes en parcours bilingue anglais-allemand, avec qui on a parlé dans une première partie de leur expérience d'un séjour d'échange entre des étudiants de Nantes et de Hambourg. Et dans cette deuxième partie, on va aborder le sujet des élections européennes. On est à quelques jours des élections et on va parler dans cette deuxième partie avec ma collègue Nathalie Osnoff. Nathalie, parce que tu votes pour la toute première fois dans ta vie pour ces élections.
Oui, c'est bien ça. J'ai jamais voté, même pas au niveau national.
Alors du coup, la première question que j'aimerais te poser, puisque c'est les élections européennes, qu'est-ce que ça signifie l'Europe pour toi, l'Union européenne, l'Europe pour toi?
Bah, pour moi, c'est plein de choses en fait. Bah, tout d'abord, c'est la paix. Je sais que, bah, comme je suis pas la génération qui a vécu la guerre, et ni non plus mes parents, et comme ça, on dit toujours que les jeunes, c'est plus vraiment la première chose qui intéresse, que c'est un projet de paix. Mais pour moi, si, en fait, c'est tout d'abord un projet de paix encore. Donc voilà, il y a déjà ça. Et puis, il y a tout ce qui vient avec. Bah, c'est toutes les possibilités qu'on a, toutes les frontières ouvertes qui nous permettent de voyager, de faire de ce que je fais en ce moment-là, de vivre une expérience à l'international sans des complications. Voilà, je peux voyager librement, je peux travailler, faire mes études un peu où je veux, en Europe ou bien dans l'Union européenne. Il y a tous les programmes d'échange subventionnés comme le service volontaire européen, l'Erasmus et tout ça. Je trouve que dans un monde comme le nôtre et dans un temps comme maintenant, il est impossible d'ignorer l'importance de l'Union européenne.
Und du hast es ja gerade schon gesagt, die Europawahl ist ja deine allererste Wahl. Was bedeutet es denn für dich, dass es jetzt eine europäische Wahl ist und du noch dazu zur Zeit des Wählens hier in Frankreich bist und nicht zu Hause in deinem Heimatland Deutschland?
Tout d'abord, c'est une valeur symbolique. Et la première fois que je donne ma voix, c'est une voix pour l'Europe et pas seulement pour mon pays, si vous voulez. C'est que avec la première voix que je donne, je soutiens la structure qui est l'Union européenne. Et voilà, quand je m'informe sur les élections, c'est pas que j'ai seulement les intérêts de l'Allemagne en tête, mais de toute l'Union européenne.
Peut-être que Nathalie, il faudrait revenir aussi, puisque toi, tu as passé ton bac l'année dernière en Allemagne. Donc, ça fait un an que tu es sortie des bancs de l'école. Maintenant, tu fais ton service civique, un volontariat culturel au centre franco-allemand de Nantes. Est-ce qu'à l'école en Allemagne, on parle beaucoup d'Europe? Est-ce que c'est un sujet des différentes matières à l'école en Allemagne, en fait, pour toi? Ça l'était?
Bah là, comme toujours, je peux juste parler pour moi. Comme je peux répondre généralement pour toutes les écoles et toutes les classes. Et déjà, avec Zina, on a parlé tout à l'heure. Et là, déjà, on a vu qu'elle a fait trois échanges scolaires pendant sa scolarité. Des échanges scolaires dans l'Union européenne, pendant que moi, j'en ai fait aucune. Et voilà, déjà, il y a des différentes possibilités dans les écoles. Donc, ça dépend de l'école, du prof et même aussi de l'intérêt que montre la classe et les élèves. Moi, c'était surtout dans les cours de langue où on a parlé de l'Union européenne. Dans le cours d'anglais, on a parlé un peu des organismes, des structures, mais pas pour très longtemps. Et dans le cours de français, on en a beaucoup fait. On a beaucoup parlé de l'histoire de l'Union européenne. Bien sûr, surtout avec un accent sur les relations franco-allemandes. On a beaucoup, beaucoup traité pour très longtemps et très profondément. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça que la paix est une valeur assez importante pour moi. On a beaucoup traité dans le cours de français. Et on a aussi parlé des programmes d'échange. Dont j'ai parlé là tout à l'heure.
Ich habe sowieso das Gefühl, du hattest einen sehr guten Französischkurs als kurzen Einwurf. aber wie ist das denn jetzt? Ihr habt in der Schule viel darüber geredet, aber war es denn leicht, sich jetzt für die Europawahl eine politische Meinung zu bilden und sich zu entscheiden? Und generell, wie ist das so? Wie bildet man sich eine politische Meinung direkt nach der Schule? Wie ging es dir damit?
Déjà, c'est jamais vraiment facile, je dirais, de se former une opinion politique. Mais ça dépend de la volonté et de la motivation, du temps qu'on est prête à y passer et tout. Mais il y a quand même beaucoup de façons de s'informer. Il y a, par exemple, les journaux, bien sûr. la chose la plus évidente, je dirais. Mais il y a aussi YouTube qu'on sous-estime beaucoup, je trouve. Parce qu'il y a quand même beaucoup de vidéos là-dessus qui expliquent et qui donnent aussi des avis, que ce qui est aussi important pour former nos propres avis. Sinon, il y a le Valomat, qui est un site internet en Allemagne. Je ne sais pas si ça existe aussi dans les autres pays, mais voilà, c'est en sorte, pas vraiment un quiz, mais il y a une trentaine de questions qu'on doit répondre, auxquelles on doit répondre, qui concernent les sujets des élections, comme la politique migratoire, le SMIC et tout ça. Et donc, on répond en fonction de ce qu'on veut et ce qu'on attend. Et puis, à la fin, on voit avec des pourcentages quels partis sont les partis qui représentent le plus ce que nous, on veut. Donc, ça aussi, c'est pratique. Bien sûr qu'il ne faut pas juste compter sur ce qu'ils disent Valomat, mais déjà, ça aide. Et le Valomat, c'est un site de la Bundeszentrale für politische Bildung qui est un site très très bien, qui donne beaucoup d'informations sur tous les sujets politiques.
Donc on peut dire que là, pour la traduction, c'est l'agence en fait d'éducation civique en fait de l'État fédéral en Allemagne. On a juste oublié, bien entendu, en fait le E-Radio pour l'information sur l'Europe, notamment ici au niveau local et au niveau français, bien entendu. Nathalie, ce que moi je voulais te demander aussi, c'est le... Maintenant, tu as passé une année en France. Quelle influence ça a pu avoir sur justement ta préparation des élections? Tu l'as déjà un peu dit en fait tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça fait avec toi justement de vivre cette année en France et pourtant tu vas voter en Allemagne pour les élections?
Déjà, ça m'a montré à quel niveau je dois de la reconnaissance à l'Union européenne. Comme je l'ai dit, c'est grâce à elle que je peux faire ce que je fais en ce moment, d'être ici et d'avoir cette liberté de venir ici, de vivre cet échange. Et déjà avant de venir ici, j'étais sûre que c'est enrichissant, cette diversité dans l'Union européenne, mais c'est encore autre chose que de venir vraiment et de la vivre. Et donc, voilà, ça m'a montré aussi à quel point les amitiés internationales, c'est un vrai trésor qu'il faut conserver. Et il n'y a pas vraiment de meilleur symbole pour cette volonté d'aller gérer ensemble pour ces amitiés internationales. Que l'Union européenne. Et bien sûr que ça a élargi mes horizons, ça m'a aidé à enlever mes lunettes nationales, si on veut. Et oui, voilà, au moment même de voter, je suis en train de profiter des avantages qu'a l'Union européenne, donc bien sûr, ça joue aussi.
Nathalie, da fällt mir noch ein Stichwort: Friday for Future. Wenn ich mir die Themen angucke, die im Moment für die Europawahl eine Rolle spielen, so in deiner Generation, in unserer Generation, man sieht ja, dass jeden Freitag immer wieder Schüler auf die Straße gehen, um dafür zu demonstrieren, in Deutschland, hier in Nantes auch. Wie stehst du eigentlich dazu?
Je trouve ça très très bien, comme on aurait peut-être attendu, parce que c'est très inspirant et très important aussi que c'est la jeunesse qui montre son intérêt et qui donne une preuve évidente que oui, elle veut participer, elle veut être entendue, elle a des attentes, elle a des souhaits et des besoins auxquels il faut faire attention. Et donc, bien sûr qu'avec des milliers d'élèves qui sèchent les cours pour manifester, il est impossible de ne rien faire. J'espère que c'est comme ça. Et bien sûr, c'est comme ça qu'ils participent aussi à la démocratie. Aussi, ceux qui sont trop jeunes pour voter, eux aussi, comme ça, ils peuvent participer et avoir une voix.
Nathalie, peut-être pour finir cette partie, une dernière question, c'est-à-dire que maintenant, tu vas voter pour la première fois. Quelles sont tes attentes, tes souhaits pour cette prochaine période, en fait, pour ces prochaines 5 années au Parlement européen? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui est en jeu pour toi, pour ces élections qui arrivent?
Déjà, ça, en lien avec ce qu'on a dit là, c'est la protection du climat qui est très important à moi. Personnellement, c'est qu'il faut vraiment des directives au niveau de l'Union européenne pour pousser tous les membres, pour obliger tous les membres à agir
un futur plus narratique.
Durable.
Durable, oui, merci. C'est l'abandon de l'énergie fossile et nucléaire et l'abandon du plastique aussi. Je sais que ça ne se fait pas d'un jour à l'autre, mais c'est ici que ça doit commencer. Donc, ça, c'est très important pour moi dans cette élection. Sinon, il y a la politique migratoire qui est aussi très importante, qui me tient très à cœur. Parce qu'il y a des milliers et des centaines de morts dans la mer Méditerranée. Si on peut agir, il faut agir. Donc, il faut bien sûr des chemins légaux pour la migration. Il faut des procédures ordonnées qui organisent l'arrivée des gens. L'important pour moi, c'est surtout d'agir pour un développement plus durable, plus social, plus pacifique. La lutte aussi contre le racisme, l'antisémitisme, le populisme de droit, donc pour la paix et pour la tolérance.
Nathalie, merci beaucoup. J'espère que en fait le 26 mai, on verra beaucoup de jeunes en fait être aussi engagés, inspirés en fait par ces élections-là. Et on passe tout de suite à l'annonce de la musique en fait après cette deuxième partie par ma collègue Zina Bettner.
Genau, also wir bleiben musikalisch weiter beim Eurovision Song Contest, jetzt allerdings nicht mehr ganz so angestaubt. Es geht weiter mit der Gewinnerin von 2016, Lena mit Satellite.
Radio Nantes.
Vous êtes toujours sur Euradio Nantes pour l'émission mensuelle du Centre culturel franco-allemand Hallo Nantes. On reste sur le sujet des élections européennes. On vient de parler avec ma collègue Nathalie Ostendorf que des élections, puisque pour elle, c'est la première fois qu'elle va voter dans sa vie. Et Nathalie a témoigné en fait de ce que ça représente pour elle, donc de voter là pour l'Europe dans le cadre de ces élections. Et puis maintenant, on va passer à autre chose, puisque il faut peut-être expliquer pourquoi nous, au Centre culturel aussi, on s'engage beaucoup pour ces élections-là. On a avec toi, Zina, une collègue qui s'occupe de projets dans le domaine de l'éducation civique. Et voilà, il faut peut-être en revenir un peu, en fait, d'où ça vient, tout cet engagement.
Ja, vielleicht kannst du unseren Hörern aber erstmal erzählen, warum sich das CCFA denn jetzt in diesem Bereich engagiert.
Alors tout d'abord, on pourrait peut-être dire qu'il est vrai que le CCFA tout d'abord cherche à promouvoir la langue et la culture allemande de manière transdisciplinaire. Il a pour vocation d'informer sur ce qui se passe en Allemagne et aussi dans les autres pays de langue allemande, et notamment dans le domaine de la culture, bien entendu, mais aussi au-delà sur des débats de société et sur d'autres enjeux qui touchent à l'évolution de nos voisins en Allemagne, justement. Deuxième chose, il faut rappeler aussi qu'on a depuis des années, dans le cadre du jumelage avec Saarbrück, entre Saarbrück et Nantes, un programme qui s'appelle « Jeunes ambassadeurs de Saarbrück à Nantes, de Nantes à Saarbrück », avec donc des jeunes qui viennent pour mener des projets à destination des jeunes, dans des projets aussi sur des débats plus sociétaux. Donc c'est pas forcément toujours que culturel. Je me rappelle un ancien jeune ambassadeur qui lui aussi a beaucoup travaillé avec Euradio, Raphaël Brune, qui a par exemple mené un projet de débat, discussion sur l'euro, avec des jeunes justement ici à Nantes. Donc déjà, c'est aussi, ça faisait partie de notre ADN depuis toujours, aussi de travailler sur ce sujet-là. Et peut-être le troisième point, puisqu'on est en France, donc il faut trois points, bien entendu. Le troisième point, c'est qu'on travaille aussi beaucoup sur la mobilité des jeunes. Donc on est un acteur de la mobilité, avec l'accueil de vous, par exemple, de vous, Nathalie et Zina aussi, de beaucoup de jeunes français et allemands qui viennent dans le cadre d'un service civique, dans le cadre d'un stage, ici à Nantes, pour 6 mois, pour toute une année. Alors, pour vous permettre de faire une première expérience professionnelle à l'étranger, une expérience de mobilité, c'est une année d'orientation, 6 mois d'orientation, et c'est aussi une expérience au niveau personnel, bien entendu. Nathalie, tu l'as très bien dit tout à l'heure, en fait, quand tu parlais en fait de ton année ici en France. Et cette année est censée aussi vous aider à la fois de trouver votre voie aussi bien au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Donc de là, il faut dire que la participation des jeunes à la société est au cœur de nos activités, au cœur de notre travail. Et on a bien vu que récemment, on vient de parler en fait des Fridays for Future, des manifestations des jeunes pour le climat. C'est justement parce que les jeunes demandent à ce que soit mis à l'agenda, sur l'agenda, ou à l'agenda plutôt des sujets qui leur tiennent à cœur, comme par exemple la protection du climat. Donc de là, il n'y a qu'un pas de se dire que de lancer, comme Zina, tu viens de faire, un groupe, un forum civique franco-allemand des jeunes pour discuter de ces enjeux-là. Et peut-être que toi, tu pourras nous en dire plus ce que c'est que ce forum.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich hoffe ja auch, dass sich unsere Hörer noch angesprochen fühlen und demnächst vorbeikommen. Also es findet alle 2 Wochen im Berlin statt. Aber bevor ich sage, wo und wann es stattfindet, erkläre ich vielleicht erstmal, was es ist. Und zwar geht es darum, dass wir uns in entspannter Atmosphäre zusammensetzen. Es richtet sich an alle Jugendlichen zwischen 15 und 30 ungefähr. Mit 32 darf man auch noch kommen. Und es geht darum, über die deutsch-französischen Beziehungen zu sprechen, über Demokratie im Allgemeinen, über Beteiligung von Jugendlichen an demokratischen Projekten. Beispielsweise reden wir auch über Jugendparlamente mal in einer Sitzung. Bei unserem letzten Treffen haben wir aus aktuellem Anlass jetzt über die europäischen Wahlen gesprochen. Und einfach mal geguckt, wo sind die Unterschiede in Deutschland und Frankreich, wer wird gewählt, wie wird überhaupt gewählt, wie kann man in Deutschland wählen, und da geht es einfach darum, sich auszutauschen. Also es richtet sich jetzt auch nicht nur an Leute, die Deutsch und oder Französisch können, es kann jeder dahin kommen, der sich eben für politische Bildung interessiert, und das Ganze ist angeknüpft an die Bundeszentrale für politische Bildung, die wir in Deutschland haben, die Nathalie ja vorhin schon erwähnt hat, und an deren Angebot. Also es ist wirklich ganz breit gefächert. Es ist nicht an Parteien geknüpft oder an bestimmte Positionen, sondern es geht eher darum, sich darüber auszutauschen, wie Jugendliche sich einbringen können, generell in das gesellschaftspolitische Leben.
Skuzina, tu peux peut-être dire quelque chose à la fois sur ton profil aussi, puisque tu as un certain, comment dire, une certaine expérience dans ce domaine-là, et aussi dire l'importance de la formation des jeunes, en fait, dans ce domaine d'éducation civique, de politische Bildung en Allemagne.
Ja, sehr gerne. Also zum einen studiere ich ja Politikwissenschaften, weswegen mir Aufklärung über politische Sachverhalte am Herzen liegt. Aber zum anderen war ich auch selbst früher in einem Jugendparlament in meinem Kreis in Hessen. Ich hatte die tolle, tolle Möglichkeit, dabei zu sein und Jugendliche zu vertreten. Das Ganze funktioniert so, dass die Jugendlichen in dem Vogelsbergkreis, wo ich herkomme, ja, heißt so, im Kreistag sitzen und selbst mitstimmen können und mitreden können. Und das ist natürlich eine ganz tolle Möglichkeit. Das Ganze funktioniert überparteilich und das gibt es sehr oft in Deutschland mittlerweile. Das Parlament, in dem ich war, ist das älteste auf Kreisebene deutschlandweit und deswegen sehr etabliert schon gewesen, hat ganz tolle Möglichkeiten. Und das war für mich so der erste Schritt in diese Richtung, um zu sehen, wie interessant es eigentlich ist, überparteilich Politik zu machen und überparteilich auch über bestimmte Sachen zu sprechen. Weil ich finde das ganz wichtig, dass sich Jugendliche in die Politik schon oder in die Gesellschaft einbringen. Also dass sie sagen, was ihnen am Herzen liegt, wie beispielsweise Friday for Future oder aber auch wie in Jugendparlamenten, wo man einfach mal sagt, ja, diese Themen interessieren uns und wir möchten, dass sie auf die Agenda kommen.
Peut-être qu'on va rappeler en français pour les auditeurs et les auditrices qui ne sont pas germanophones, justement, donc le prochain forum civique franco-allemand de jeunes dont tu parlais tout à l'heure aura donc lieu lundi prochain, 20 mai à 19h au bar Berlin 1999 à côté de l'université de Nantes, et donc c'est la deuxième rencontre et tous les jeunes entre 15 et 30 ans sont invités. Peut-être que tu peux nous parler aussi des autres activités qui maintenant tournent, notamment beaucoup autour des élections européennes qui nous attendent dans les jours et dans les semaines qui viennent.
Genau, das ist natürlich das Top-Thema im Moment. Wozu ich alle ganz herzlich einladen möchte, ist unser Wahlabend am 26., also an dem Abend, wo die europäischen Wahlen stattfinden, weil da finden nicht nur die europäischen Wahlen statt in Deutschland, sondern in unserer schönen Partnerstadt, also in Nantes, schöner Partnerstadt Saarbrücken, finden die Bürgermeisterwahlen, also die Stadtwahlen quasi statt. Und außerdem wird in dem Bundesland Bremen gewählt. Und wir haben uns überlegt, im CCFA einen Abend dazu zu gestalten, wo wir im Livestream die drei Wahlen übertragen werden und das Ganze wird kommentiert werden. Das hatten wir schon mal in ähnlichem Stil für die Landtagswahlen in Bayern und in Hessen letztes Jahr. Und das ist vielleicht die Möglichkeit, mal mit uns darüber zu diskutieren, wie das Ganze funktioniert. Wir übertragen es auf Deutsch, aber man muss kein Deutsch sprechen, um zu kommen. Also wir werden gerne übersetzen und Fragen beantworten.
Et si je me trompe pas, en fait, là, aujourd'hui, en fait, nous sommes jeudi 16, et il y a même, en fait, quelque chose directement, même dans les jours qui viennent, où tu participes aussi dans le... dans les activités relatives aux élections européennes ici à Nantes.
Ja, im Moment in Nantes gibt es ja ganz viele Veranstaltungen zu den Europawahlen. Also in der ganzen Stadt hat man ja viele Möglichkeiten, sich zu informieren, glücklicherweise. Und es gibt jetzt am Freitag eine Veranstaltung im Café Pop, wo es eben genau darum gehen soll, mal über Europa zu reden. Und das soll ein Forum sein quasi, wo man alle Fragen stellen kann, die man hat, ohne sich schlecht fühlen zu müssen. Das Ganze funktioniert spielerisch. Um 19 Uhr geht es los. Es ist offen für alle und findet auf Französisch statt. Und ich werde dabei sein und ich glaube, ich werde ein bisschen die deutsch-französische Sicht bei diesem Treffen repräsentieren und vielleicht auch aus deutscher Sicht da ein paar Ideen beisteuern, weil ich glaube, dass überschneidet sich ja nicht ganz, was gerade in Deutschland und in Frankreich besprochen wird in Bezug auf die Europawahlen. Und deswegen werde ich da mal ein bisschen meine Punkte noch mit einbringen.
Et avant que tu n'annonces la musique, en fait, Gina, juste un petit rappel. Donc là, on parle de vendredi 17 mai à 19h au Café Pop, juste à côté de la station de tram Commerce. Et tu as, comme toujours, en fait, le dernier mot pour annoncer la musique après cette troisième partie d'émission.
Genau. Und wir bleiben auch mit dem dritten Lied beim ESC. Und zwar ist das jetzt ein ganz neues Lied, was ich selbst noch nie ganz gehört habe. Das Lied ist von Sister und heißt auch Sister und ist der deutsche Vorschlag für den Song Contest in diesem Jahr in 2019.
tired of always losing. I tried to stop your fire. Turns out that I couldn't. I'm tired, tired of competing. I tried to hold you under, but honey, you kept breathing. When you said you wanted the world, I said you couldn't too. You were walking right beside me, but I left no room for you. Calling you my enemy, but my enemy's right here. It was my mistake to try and break your power that I feel. I see flames in your eyes. Tell me, burn so bright.
Allô Nantes.
Auf Euradio Nantes.
Vous êtes donc toujours sur Euradio Nantes pour l'émission mensuelle du Centre culturel franco-allemand de Nantes. Mon nom est Martin Krechting, je suis directeur du centre. Vous avez donc pu entendre qu'on a consacré cette émission notamment aux élections européennes de cette fin du mois de mai. Et dans la dernière partie, j'aimerais tout d'abord vous demander, Zina et Nathalie, vous avez déjà voté pour les élections et comment ?
Ja, wir haben gleichzeitig gewählt, also nicht gleichzeitig, aber wir haben gleichzeitig gestern unsere Wahlzettel eingeworfen. Das ist spannend. Willst du das erklären, Nathalie?
Ja, also in Deutschland hat man ja die Möglichkeit, per Briefwahl zu wählen. Das heißt, man muss rechtzeitig vorher beantragen, dass man den Wahlschein zugeschickt bekommt. Und dann, das haben wir gemacht. Also es muss, wir haben es per E-Mail gemacht. Ich glaube, man kann es auch per Brief machen und...
Also das Beantragen jetzt von der...
Ja, genau, also das Beantragen, das Wählen geht nicht per E-Mail. Genau, und dann kriegt man die Sachen einfach zugeschickt, das ist alles ganz simpel. Dann wählt man, wie man sonst auch wählen würde, und dann schickt man es ab und dann hat man gewählt. Und das haben Sina und ich gestern gemacht.
Et c'est bien que tu le dises, puisqu'en France, c'est pas possible, justement. On se vote par courrier, on peut voter par procuration en France, mais on peut pas voter par courrier, comme vous l'avez fait pour ces élections-là. Alors, il se trouve, moi, j'ai choisi une autre option, puisque en tant que ressortissant européen, on a heureusement la possibilité, quand on est dans un autre pays de l'Europe, de voter sur place. Et donc, c'est une première comme pour toi, Nathalie, puisque j'ai jamais voté en France. Donc, du coup, ce sera la première fois que je vais profiter de mon droit de vote en tant que ressortissant européen pour voter ici en France. Et donc, je le ferai le 26 sur place. Mais merci pour ce rappel qu'en Allemagne, justement, les petites différences qui enrichissent tellement notre Europe que vous avez pu voter par courrier pour ces élections. Zina, je crois que pour cette dernière partie, tout d'abord, on te donne le micro puisque tu nous as concocté un petit quiz de l'Europe et je pense que Nathalie et moi, on est déjà On espère qu'on sache répondre à tes questions.
Das hoffe ich auch. Nein, Quatsch. Komm, ich hab mir gedacht, wir machen ein kleines Warm-up für euch, damit ihr nicht ganz so nervös seid. Nathalie, nicht auf die Fragen. Auf jeden Fall dachte ich, ich frage euch mal, was wird denn gewählt dieses Mal, damit wir uns hier alle einig sind?
Also die Wahlen sind die Wahlen zum Europaparlament. Voilà.
Okay, gut. Und wie oft wird das dann gewählt, das Europaparlament?
Alle 5 Jahre?
Wow. Okay, ich sehe schon, ihr seid schon Show quasi. Also das funktioniert. Dann, welche Fraktion ist denn die größte im Europaparlament?
Also im Moment, es gibt ja 2 große Fraktionen im Europaparlament. Das ist einmal die PPÖ, also das ist sozusagen der Zusammenschluss der Konservativen, und dann einmal der Zusammenschluss der Sozialisten. Im Moment ist es so, man weiß ja, dass der Kommissionspräsident gerade Jean-Claude Juncker ist. Insofern, die Konservativen haben gerade die Mehrheit im Europäischen Parlament.
Genau. Das haben wir auch ganz schön gesehen bei unserer Debatte, die wir zu dem Europaparlament, die Debatte zwischen den künftigen Kommissionspräsidenten, quasi zwischen Manfred Weber und Franz Timmermans. Aber gut, darauf wollte ich jetzt eigentlich gar nicht eingehen. Wir haben letztes Mal in der letzten Radiosendung ganz kurz über Wahlbeteiligung geredet, und da habe ich gedacht, wir können das ja eigentlich nicht so stehen lassen, dass wir nur die deutsche und die europäische Wahlbeteiligung angucken. Und deswegen wollte ich euch mal schätzen lassen, was denkt ihr denn, in welchem europäischen Land die Wahlbeteiligung am höchsten war?
Donc la question, juste pour le rappeler en français, c'est donc de savoir en fait la participation aux élections européennes la dernière fois, lors des dernières élections, était la plus élevée dans quel pays de l'Europe? Nathalie, je te laisse répondre d'abord.
Schwierig. Irland, sag ich mal.
Und was sagst du, Martin?
J'aurais dit un des pays des Benelux. Et je... Est-ce que je peux laisser comme réponse, en fait, un des pays des Benelux?
Ja, kannst du. Das ist gescheatet. Das ist sehr richtig. Und ich muss euch ja jetzt aufklären, das war ja eigentlich eine Trickfrage, weil Belgien hat die höchste Wahlbeteiligung mit 89,64% gehabt. Aber in Belgien gibt es eine Wahlpflicht. Also man muss wählen. Habe ich euch ein bisschen aufs Korn genommen. In Deutschland war sie eigentlich auch nicht so schlecht im Durchschnitt, nämlich mit 48,1%. Und was denkt ihr denn, wo die Wahlbeteiligung am niedrigsten war? In welchem europäischen Land? 2014.
Gott. Nathalie, si tu veux que cette fois-ci, moi je commence, puisque toi tu as commencé la dernière fois. Question difficile, puisque si on se rappelle un tout petit peu la situation historique il y a 5 ans.
Ich kann euch vielleicht ein bisschen helfen. Und zwar gab es ein Land, was neu dazu kam in die EU.
Et c'est là que le vote était le plus bas. Alors, j'espère ne pas dire de bêtises, mais normalement, ça devait être la Croatie, en fait, à l'époque.
Sehr gut. Genau. Und ich bin sehr gespannt, ob sich das dieses Jahr verändert. Also, jetzt, wo Sie schon länger dabei sind, ist es natürlich spannend zu sehen. Damals waren es wirklich nur 25%. Also, sehr niedrig, auch im EU-Vergleich. Jetzt habe ich eine ganz tolle Sache auf der Bundeszentrale für politische Bildung gefunden. Und zwar gibt es da verschiedene Quizfragen. Und die basieren auf Eurobarometer-Umfragen. Also es ist diese Umfrage, die mehrmals, also einmal im Jahr eine allgemeine Umfrage, und dann gibt es mehrere spezielle, und die werden von der Europäischen Kommission in Auftrag gegeben und finden in allen EU-Ländern statt. Und da werden viele, viele Leute befragt. Ehrlich gesagt, ich war erstaunt, als ich gesehen habe, dass für viele Umfragen ungefähr 30.000 Leute befragt werden. Und jetzt habe ich hier eine interessante Sache gefunden, die ich euch mal fragen wollte. Und zwar, was sind laut Eurobarometer-Umfrage 2008 die positivsten Errungenschaften der EU? Und da haben wir jetzt Auswahlmöglichkeit: freier Verkehr von Personen und Waren und Frieden oder Euro- und Austauschprogramme oder gemeinsame Agrar- und Außenpolitik.
Dann antworte ich mal als erstes. Ich würde das erste sagen.
Also freier Verkehr von Personen, Waren und Frieden. Ja.
Okay, dann muss ich jetzt natürlich sozusagen Lösung 2 bevorzugen, weil das auch natürlich eine wichtige Errungenschaft ist der Europäischen Union.
Mhm. Ja, recht gehabt hat Nathalie mit Frieden. Passt auch so schön zu dem, was du vorhin gesagt hast, tatsächlich. Also es scheint wirklich auch für viele, auch für die jungen Leute, noch eine große Rolle zu spielen. Die größten Errungenschaften der EU. Und
Als EU-Bürger fühlen sich laut Eurobarometer-Umfrage 2018 knapp 10% der Befragten, rund ein Drittel der Befragten oder 70% der befragten Bürger ein Rekordwert.
Fühlen sich als Europäer.
Genau.
Dans tous les pays de l'Union. C'est autre chose que de voter en fait aux élections ou de se sentir européen, c'est ça en fait la différence, puisque là on sait très bien que le vote était plutôt bas. Se sentir européen, c'est autre chose. Donc, allons-y. Je donnerai en fait un avis très optimiste. Donc, c'est en fait les 70% qui se sentent européens, sans pourtant autant voter en fait aux Européens.
Da schließe ich mich mal ganz hoffnungsvoll an.
Okay. Ja, ihr liegt richtig. Tatsächlich 70% der EU-Bürger im Durchschnitt fühlen sich als Europäer. Also ich war auch ganz positiv überrascht. Ich frage mich, ob die Leute das dann auch antworten, wenn man sie fragt. Und dazu muss man noch sagen, ich habe dann natürlich die deutschen und französischen Zahlen nochmal nachgeguckt. In Frankreich sind es 62% und in Deutschland sind es 86%. Deutschland wird nur getoppt von Luxemburg, wo es 89% sind. Also das fand ich ganz, ganz spannend zu sehen. Vielleicht da im Anschluss gleich, wenn ihr noch könnt. die größten Probleme auf europäischer Ebene sind laut dieser Umfrage Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Lage oder vielleicht Nathalie, Klimawandel und Umweltzerstörung, weil wir ja über Friday for Future geredet haben, oder Einwanderung und Terrorismus.
De quand date en fait l'enquête? Tu nous rappelles en fait
2018, im Winter. Also Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Lage oder Klimawandel und Umweltzerstörung oder Einwanderung und Terrorismus.
Alors, si j'avais été à la place en fait de répondre au questionnaire, j'aurais certainement dit en fait tout ce qui concerne l'environnement. Donc c'est-à-dire protection du climat, de la biodiversité. Mais je suis pas sûr que ce soit aussi les résultats en fait du sondage.
Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass es das Ergebnis wäre. Also ich bin auch bei Nummer 2.
Ich hätte ja gerne so eine Umfrage jetzt nochmal direkt vor den Wahlen gemacht, ne? Aber es ist tatsächlich Einwanderung und Terrorismus gewesen. Davor, 2010 bis 2014, war die wirtschaftliche Situation das wichtigste Thema. Und ich könnte mir ja vorstellen, dass Klimawandel und Umweltzerstörung dazugenommen wurde, weil das demnächst vielleicht das wichtigste Thema ist. Also das sind, glaube ich, generell drei sehr wichtige Punkte einfach. Aber im Moment der Umfrage war es eben Einwanderung und Terrorismus. Genau, ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar die ideale Zukunft der Europäischen Union. Wäre für die meisten Befragten eine Union der gleichen Löhne, wo man die gleichen Löhne für die gleiche Arbeit bekommt, oder eine Union mit einer Regierung für die ganze EU, oder eine Union, in der vor allem erneuerbare Energien und biologische Landwirtschaft gefördert werden.
Also ich würde sagen, Nummer 1, das sind die gleichen Löhne in der ganzen Union.
Also die Frage nochmal wiederholen, also nicht die Antwort.
Die ideale Zukunft der EU.
Aus Sicht der EU-Bürger?
Ja, aus Sicht der Befragten.
Oh, ich wäre bei Nummer 3, bei erneuerbare Energie.
Martin hat tatsächlich recht. Also, man wünscht sich gleiche Löhne für die Zukunft der EU. Mal sehen, was jetzt passieren wird bei den Wahlen.
Sina, pour rentrer dans le vif du reste dans le vif du sujet, on va faire un petit détour par l'Allemagne et puis... Tu nous as déjà fait la dernière fois une petite... Tu as déjà dit un peu comment ça se passe en Allemagne. Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois? Comment sont perçues les élections en Allemagne actuellement?
Ich habe das Gefühl, die Debatte über die Europawahlen nimmt jetzt nochmal richtig Fahrt auf in Deutschland. Also in den Zeitungen wird eine Statistik nach der anderen veröffentlicht, was mich natürlich sehr freut. Und man beschäftigt sich wirklich gerade sehr viel damit. Also ich habe es gerade schon angesprochen, wir hatten ja jetzt auch die Fernsehdebatten zwischen vor allem Manfred Weber und Franz Timmermans. Und ich glaube, das Bewusstsein ist einfach nochmal geschärft. Und im Moment sieht es so aus, als könnten die Grünen wirklich auf dem zweiten Platz landen, also nach CDU, CSU. Das war das letzte Mal noch nicht so ganz klar. Nach neuesten Umfragen sieht es fast so aus, als würden die Grünen das Rennen machen.
Une autre question peut-être qui a fait beaucoup débat aussi entre les Allemands, entre l'Allemagne et la France récemment, c'est la question des têtes de liste au niveau de l'Europe. C'était quelque chose qui a été introduit pour renforcer la position du Parlement. Là, récemment, on a vu le président français faire un petit pas pour dire que les choses sont peut-être pas si claires que ça après les élections. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus aussi très brièvement sur cette discussion-là?
Gerne. Das hatten wir tatsächlich auch in meinem Forum Civic in dem letzten Treffen. Da haben wir das kurz angesprochen, dass in Deutschland die europäischen Spitzenkandidaten viel mehr im Fokus stehen. Und in Frankreich scheint es ja so, als würden die französischen Spitzenkandidaten, also Tête de Liste, quasi mehr in den Medien vorkommen. Und da gibt es ja im Moment einige Reibereien, gerade zwischen Macron und Weber. Und ich bin ganz gespannt, wie sich das in nächster Zeit gestalten wird, ob es wirklich so sein wird, dass die Spitzenkandidaten die Kommissionspräsidenten stellen oder vielleicht auch nicht. Also mal gucken.
Et on rappelle à cette occasion que c'est en fait les chefs d'État et de gouvernement qui ont toujours le droit de proposer le prochain commissionnaire. Commission, et comme tu le dis, on verra si effectivement tous ces chefs d'État et de gouvernement se sentiront en fait obligés de respecter ce qui a été mis en place, c'est-à-dire le système des têtes de liste, ou est-ce que finalement on passera outre avec une proposition autre que ce qui avait été décidé avant. Sina, merci beaucoup pour ces éclaircissements sur les positions allemandes. Merci beaucoup à vous deux d'être sur le plateau. Merci aussi, bien entendu, à nos deux étudiantes qui nous ont témoigné aujourd'hui de leur séjour à Hambourg. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre écoute. Et on se retrouve au mois de juin pour en fait une dernière émission mensuelle du Centre culturel franco-allemand sur Euradio dans cette saison 2018-2019. À bientôt, bis bald.
Euradio Nantes et le Centre culturel franco-allemand vous ont présenté Hallo Nantes. Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous sur euradio.fr.
Euradio Nantes und das Deutsch-Französische Kulturzentrum präsentierten Ihnen Hallo Nantes. Wollen Sie mehr wissen? Gehen Sie auf euradio.fr.